Cinéma Cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, comment finir un film 2. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Qu'il y ait une mort infligée à un personnage ou plusieurs à la fin du film, ça peut apparaître régulièrement. Mais apparaît moins courante la situation de mort qui n'est pas montrée. Elle est au bout du voyage, mais au lieu de la présenter comme un échec, elle va transfigurée. Les personnages donc sont transfigurés par la mort, qui serait une sorte de victoire. La mort n'est pas redoutée, mais elle est choisie. Deux exemples. Premier exemple le plus récent, Thelma et Louise, Ridley Scott, 1992. C'est un film qui a eu beaucoup de succès. Vous savez que Louise, Suzanne Sarandon et Thelma Jean Davis décident de se jeter dans le vide à la fin du film. Précision, la scène est filmée à Monument Valley, site qui avait été découvert par John Ford, où se passent de nombreux westerns, notamment la trilogie sur la cavalerie. Donc ici, la voiture démarre. Harvey Keitel, le policier qui les comprend et veut les sauver, contre tous les autres policiers qui veulent les tuer, court après la voiture au ralenti. Les deux femmes se pressent la main, l'accélérateur est poussé à fond par Sarandon, la voiture plane au-dessus du vide et l'image se fige. Et le dialogue final, c'est « On va pas se laisser arrêter, on va poursuivre, à quoi penses-tu? Vas-y, tu es sûr? Oui, tout droit. » Et donc elles vont vers la mort, mais l'image va se figer avant. Second exemple plus ancien, Butch Cassidy et le Kid, c'est un film de George Hill de 1969 avec Paul Newman qui fait Butch Cassidy et Robert Redford qui fait le Kid. À la fin du film, ils sont coincés par leurs adversaires. Ils sont pratiquement sûrs de ne pas s'en sortir. Ils vont se ruer hors de leur abri en courant revolver au poing et l'image se fige. Arrêt sur image qui suggère la mort. Mais certains ont inventé un futur mythifié où ils se seraient réfugiés à l'étranger, en Amérique du Sud. Dernier élément du film, c'est quoi? Bien sûr, le générique. Alors là, pas mal de précisions apportées. Quel est le principe du générique? Présenter de manière détaillée tous ceux qui ont participé de près ou de loin à un film. Alors quand je dis de loin, ça va parfois dans le détail, on peut trouver dans le générique une personne qui était le chauffeur de telle vedette, ça peut se produire. Ou le costumier, ça c'est plus logique. De même, on cite les maquilleurs qui ont une véritable importance. Greta Garbo avait un maquillage léger. Marlène Dietrich demandait à son maquilleur de tirer la peau de son visage et ses cheveux vers l'arrière, vers ses oreilles, pour avoir un visage plus lisse. On disait aussi qu'elle s'est fait arracher des molaires pour obtenir ses joues creusées, qui sont sa marque de fabrique. À l'époque contemporaine, Belmondo a eu toujours le même maquilleur pour tous ses films, Charlie Koubessérian. Isabelle Huppert a aussi recours à un maquilleur qui fait disparaître dans ses films toutes les taches de rousseur de son visage, alors qu'on les voit parfaitement dans ses premiers films. Bon, je m'éloigne, revenons au générique. Dans le cinéma muet, générique réduit, et dans les années 50, on a à ce moment-là une mention des acteurs qui va apparaître. Ça dure environ une vingtaine de secondes. Parfois, on voit le logo de la compagnie qui produit le film. C'est dans les années 70 qu'on est passé à un générique plus long, parfois même très ou trop long. Une dizaine de minutes pour une super production. On parle, on utilise le terme américain de blockbuster. Pour ces blockbusters, avec le budget desquels on pourrait réaliser, je dirais quasiment 80 films français, les films de science-fiction, les effets spéciaux, c'est un montant important du budget. Et tous les collaborateurs sont mentionnés. Pour les premiers films de ce type, il y a la saga de la Guerre des Étoiles, Superman, Batman, il y a plusieurs versions. Et on voit apparaître les X-Men à partir de 2000. Et on peut voir aujourd'hui ces fins extrêmement longues avec la franchise Marvel, c'est-à-dire Iron Man, Hulk, Thor, Captain America et les groupes, donc Avengers, les Gardiens de la Galaxie et les 4 Fantastiques. Chaque fois, très long générique. Alors j'ai cité les Avengers, ben on va écouter la musique des Avengers. We'll be right back. Faut-il rester jusqu'au bout du générique de fin, même s'il dure 10 minutes ? Alors déjà, différence de nature, suivant le type de cinéma et le type de film. Dans les salles que je qualifierais pour simplifier de salles diffusant des films commerciaux, les spectateurs quittent immédiatement la salle, parfois même sans entendre que celle-ci s'éclaire. Aucun attachement particulier à l'œuvre, aucun respect pour elle. Par contre, les spectateurs des films d'art et essai seront plus respectueux du film. Ils vont, pour leur quasi-totalité, rester sur leur siège et même attendre la fin du générique, même si la salle est allumée. Dans des salles plus commerciales, certains spectateurs ne partiront en aucun cas pendant le générique. Ça touche qui ? Mais ça touche les aficionados des Marvel. Ceux qui connaissent les Marvel restent calés dans leur fauteuil. Pourquoi ? Parce que pendant le générique de film, il y a des scènes qui s'ajoutent. Alors au départ, il y avait à l'issue du long générique de 10 minutes, une scène originale. Puis pour certains films, on est passé à deux scènes supplémentaires, l'une au milieu du générique et l'autre tout à fait à la fin. La situation varie. Parfois, il s'agit de reprendre certains des personnages du film pour les mettre dans un autre cadre. Et très souvent, il s'agit de faire apparaître un personnage qui n'apparaissait pas dans le film, mais qui fait partie de la franchise Marvel. Cette scène peut se suffire elle-même ou elle renvoie à un futur film de la franchise. Donc, il y a une forme de complicité au sein de la communauté des spectateurs Marvel. Cette technique apparaissait aussi dans le Pirates des Caraïbes ou même Astérix et Obélix Mission Cléopâtre où on voit Gérard Darmon qui restait coincé dans un mur après une lutte avec Jamel Debbouze. L'annonce du film suivant aussi peut apparaître dans le générique. C'est ce qui se passait systématiquement pour les premiers James Bond avec Sean Connery. Le titre du film postérieur était même annoncé. En France, on peut citer une série de films qui a eu son heure de gloire dans les années 60, où il y a eu 5 films. C'est la série Angélique. Angélique, Marquise des Anges, Merveilleuse Angélique et le Roi, Indomptable, Angélique et le Sultan. On a l'annonce du film suivant. Donc, faut-il rester pour le générique de fin ? Oui, il faut toujours rester si on respecte le cinéma et si on respecte les films. D'autant plus que parfois, il y a un gag inattendu pendant le générique. Alors, on peut citer deux films de John Hughes ici. Dans La folle journée de Ferris Bueller, 1986, le héros est dans sa douche et invective le public. Vous êtes encore ici, c'est fini, dégagez. Dans La vie en plus, 1988, le couple cherche un prénom pour l'enfant qui n'est pas encore né. Et on a la surprise alors de voir défiler une vingtaine de comédiens dans leur propre rôle qui vont proposer des prénoms. Hein, fin originale. Parfois, hésitation entre plusieurs fins. Pour les studios hollywoodiens qui dominaient le marché aux États-Unis dans les années 30 jusqu'aux années 60, on utilise systématiquement la technique du preview. Le preview, c'est aller dans une salle où des spectateurs attendent un film et puis disent « voilà, on va vous proposer un nouveau film qui n'est pas encore sorti ». Il s'agissait pour les studios de suivre les réactions des spectateurs, les rires pour un film comique, et leur demander de remplir une fiche détaillée. Donc cette analyse des fiches permettait parfois de transformer la fin. Le public, souvent d'ailleurs, préfère les films heureuses, même si elles ne sont pas logiques. Deux films pour lesquels il y a eu des fins, je dirais multiples, au moins deux ou trois, Apocalypse Now, Francis Coppola, 1979, Palme d'Or à Cannes, la fin présentée à Cannes n'a pas été la même que celle présentée lors de la diffusion en salle. Un film français qui s'appelle La belle équipe de Julien Duvivier, 1936, voit 5 amis ouvriers qui gagnent à la loterie et veulent monter une guinguette. Le problème, c'est que ce groupe se disloque. Le premier, Raphaël Medina, est expulsé par la police. Le second, Charles Dora, part au Canada. Le troisième, Amos, tombe d'un toit. Et il reste Jean Gabin et Charles Vanel. L'ex-femme de Charles Vanel vient voir les deux hommes qui sont attirés par elle. Et les producteurs ont choisi de donner une fin heureuse. Gabin et Vanel repoussent Vienne Romance. Mais en réalité, la fin logique, c'est la fin tragique où Gabin tue Vanel, ce qui fait que la belle équipe sera complètement explosée. Elle n'existera plus. Alors dans ce film, on a Gabin qui chante. Il faut savoir qu'à l'époque, il avait débuté en chantant. Donc dans la belle équipe, il y a une chanson qui s'appelle « Quand on se promène au bord de l'eau », c'est la guinguette dans laquelle il se promène.
Du lundi jusqu'au samedi, pour travailler les radis. Quand on a fait sans entrain son boulot au quotidien, subit le propriétaire, percepteur la boulangère, et trimballé sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos champs, alors brusquement, vous paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison, on a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met à l'envers, et le bonheur nous souffle pour passer, chagrin et peine, dans la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert, à ce dimanche, au bord de l'eau, au trémolo, des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux.
C'est un'altra strofa!
Venez des gens qui apparaissent, qui tout le temps sont des cheveux, et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur, qui dépense des temps d'oseilleurs pour découvrir ses merveilles. Un moyen de faire au cœur, car il n'y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien, de chercher.
Tout in coro!
Il existe des fins ouvertes. Parfois, certains acteurs, certains spectateurs n'apprécient pas d'ailleurs. Dans Killer Joe de William Friedkin de 2011, il y a un tueur, Killer Joe, Matthew McConaughey, qui tombe amoureux de la sœur de son commanditaire. À la fin du film, il y a des morts. Dottie va tuer son frère. Elle tourne l'arme vers Killer Joe. Son doigt est posé sur la queue de détente. Killer Joe s'avance. Va-t-elle tirer ou pas? Le film s'arrête là. Hein. Parenthèse, d'ailleurs, je parle de queue de détente, non pas de gâchette, puisque la gâchette se trouve à l'intérieur de l'arme. Challenger 2024, Luca Guadagnino. Rivalité entre deux joueurs de tennis qui s'affrontent sur le court. Et la fin du film, c'est au cours d'une finale, mais on ne saura pas qui va gagner. Alors, un film qui est parfois difficile à cerner, un peu comme Mulholland Drive de David Lynch, c'est Inception, Inception de Christopher Nolan 2010. Il y a un groupe qui est dirigé par Leonardo DiCaprio et qui veut s'introduire dans l'inconscient, dans les rêves des individus, pour leur soustraire des informations. Et il y a parfois plusieurs niveaux de rêve. Alors, pour savoir où il en est, DiCaprio utilise une petite toupie. Dans la réalité, lorsque c'est la réalité, elle tourne, puis finit par tomber. Par contre, dans le rêve, elle ne tombe jamais. Dans la dernière scène du film, DiCaprio retrouve ses enfants, il lance la toupie, elle tourne, on a l'impression qu'elle hésite à tomber, et brutalement, le générique démarre. Film avec Liam Neeson, Le territoire des loups de 2012, joué Carnahan. À la fin, Liam Neeson se retrouve face à une meute de loups qui l'encercle. Il y a plusieurs minutes où cet encerclement dure, puis les loups se retirent pour laisser Liam Neeson face à la bête de meute. Il y a un gros plan sur le visage et sur les yeux de Neeson, et le film s'arrête alors qu'on entend un hurlement. On ne sait pas s'il existe un hurlement qui vient de l'homme ou de l'animal. No Country for Old Men de Joel et Ethan Cohen, 2007. Alors, je ne vais pas développer le film. Simplement, il y a comme dernière scène Tommy Lee Jones qui a participé à la traque du tueur, qui est attablé dans un restaurant avec son épouse. Apparemment, pas de rapport avec l'intrigue. Au cours du déjeuner, il raconte à sa femme deux rêves dans lesquels apparaît son père et on ne comprend pas vraiment le sens de cette scène. Tommy Lee Jones lui-même a dit « Le dernier discours est une contemplation d'espoir, un rêve sur la noirceur et la froideur du monde, sur la longueur du trajet, qu'à la fin, vous savez que vous irez à la maison de ton père, il fera chaud, ou à un feu que ton père aura porté et allumé. » Gourou, Gourou, film de 2026 avec Pierre Niney, qui joue une sorte de gourou manipulant les gens. Ça se passe de plus en plus mal en France, donc il part aux États-Unis. C'est type de pasteur star escroc des États-Unis, un d'entre eux le fait venir. Il va boire, il va être complètement dans le cirage au moment où il doit venir sur scène. Il arrive, son visage est filmé en gros plan et le film se termine. On ne saura pas s'il a réussi ou pas son discours. Parfois, le personnage est filmé de face. On a une manière ainsi de rejeter la scène cliché. Vous avez par exemple Go Fast de Olivier Hostal de 2008 où les deux personnages en pied s'avancent vers la caméra avec la musique, il n'y a pas de son et tout en marchant, ils sortent du champ de la caméra. Dans le même sens, vous avez la fin de Drôle de drame de Marcel Carné 1937 où là aussi, un groupe de personnes s'avance vers la caméra et sort du champ. Sauf que là, il y a un enfant qui est resté en arrière et un homme vient le chercher. Gros plan aussi pour Ahmet. Il y a la fin originale du film Les Dimanches de Aloda Ruiz de Azoua de 2025 où on se fige sur le visage désespéré d'une tante dont la nièce rentre dans les ordres. Nino de 2025, film français où on voit le jeune Nino qui va recevoir sa chimiothérapie. Les infirmières lui posent un cathéter. La caméra s'approche du visage et le dernier plan montre son visage qui lève les yeux au ciel. Fin amusante, manuel de survie l'apocalypse zombie. On a un dernier plan où une tête de zombie est coupée par terre. Elle reçoit une fiente d'oiseau sur le crâne. Alors j'aime bien la fin des Pirates du métro qui est assez brutale mais originale. Ce sont quatre délinquants qui ont braqué le métro. Ils s'appelaient par des noms de couleurs bleu, vert, gris, brun. Quentin Tarantino a d'ailleurs repris cette approche en référence aux Pirates du métro. Dans Reservoir Dogs, on a white, blonde, orange, pink, blue, brown. Pour la fin des Pirates du métro, on a Walter Matto qui a été en contact téléphonique avec un des gangsters, Monsieur Vert, qui a éternué plusieurs fois dans le cadre des conversations. Et il a des dizaines de noms pour faire ses recherches. Il y a une sélection de 5. Il se rend chez M. Vert qui est en train de se vautrer sur son lit avec tout l'argent qu'il a mis. Après discussion, Matto l'élimine dans sa liste, mais quand il ferme la porte, il entend un éternuement. Il revient en arrière et rouvre la porte. Il passe son visage dans la porte. C'est le dernier plan. On a compris qu'effectivement, il a compris qui était le truand. Dans Les Pirates du métro, eh bien, on va écouter la musique des Pirates du métro.
on the John. For who's running?
How come that gate ain't locked?
Who's gonna steal a subway train?
Grand Central Tower, call a command center. If you picked up on Pelham 123,
yeah. Sure do.
I think I just figured out how they're going to get away.
I'm listening.
They're going to fly the train to Cuba.
You're a sick man, Rico.
Une catégorie qui comprend seulement deux films d'Hitchcock. La mort aux trousses. Alors, il y a le dernier plan et un petit peu avant. Le dernier plan, c'est un train qui rentre dans un tunnel. Personne ne pense à ce que Hitchcock voulait suggérer. Il l'a dit par la suite. C'est le symbole de l'acte sexuel. Alors, l'élément qui est peut-être plus original aussi, c'est le mont Rushmore. C'est ce mont où sont gravées quatre têtes de président. On a Cary Grant, qui va réussir à sauver Eva Marissin et en la remontant donc alors qu'elle allait tomber. Même utilisation d'un monument et d'une personne à ce moment-là qui va tomber depuis la Statue de la Liberté, c'est cinquième colonne en 1942. Donc voilà pour cette catégorie unique, si je puis dire. Autre question, le bêtisier. Alors, il y a eu un moment dans les années 80 où le bêtisier était à la mode à la télévision. Alors, la télévision, c'était des émissions répétitives qui étaient quelque peu ennuyeuses parfois. Pour un film, c'est pendant le générique de fin qu'on voyait les prises ratées, les éclats de rire, les interruptions de prise, de déroulement d'une prise. C'était plutôt utilisé d'ailleurs pour les films comiques. On prendra l'exemple de Deadpool dans Wolverine, Sean Levy 2024, un film Marvel. On a, j'en ai parlé, une scène au milieu de générique de fin et une scène ensuite qui est la présence d'un bêtisier. Alors lorsqu'il y a un bêtisier, deux solutions, soit les images occupent tout l'écran, soit les images sont d'un côté et de l'autre défilent le générique. Alors certains bêtisiers sont réussis. Cependant, je ne peux jamais m'empêcher de penser que les images sont tournées spécifiquement pour figurer au bêtisier. C'est un faux naturel en quelque sorte. Ce qui me fait dire ça, c'est qu'on a un très très mauvais acteur français qui s'appelle Jean Lefebvre, qui dans les pièces de théâtre simulait des faux fous rires. Or, s'il y a un vrai fou rire, le spectateur peut être complice réellement. Avec un faux fou rire, c'est quand même une tromperie sur la marchandise. Il y a aussi, après la fin du film, où il y a des personnages fictifs, l'avenir de ces personnages. Donc on dit voilà, celui-ci a fini comme ça, celui-ci a fini comme ça. Par contre, lorsque c'est inspiré par des faits réels, on peut avoir aussi quelques lignes qui apparaissent, mais on peut voir aussi des photos ou des extraits de films documentaires ou personnels. Quelques films comme ça, au hasard, 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon de 2025, adapté d'un ouvrage autobiographique, c'est l'exfiltration de centaines de personnes de l'ambassade de France en Afghanistan lors de la chute de Kaboul en août 2021. Le rôle est tenu par Roche Dizaine, grand acteur là aussi, et le générique de fin montre les photos des personnages authentiques correspondant aux acteurs. Le rêve américain 2026, là aussi on a deux personnages principaux et on verra les photos de ces personnages à la fin. On a un carton qui apparaît à la fin de L'ennemi public de William Wellman qui est en 1931. 1931, donc, on a quelques gangsters qui sont les héros de film. On peut faire une remarque amusante sur la taille, je dirais, parce que les bons mesurent tous 1m85, 1m90. C'est John Wayne, Gary Cooper, Henry Fonda, James Stewart. Par contre, les méchants, les gangsters, bizarrement, ils sont petits, mesurent 1m65, 70. C'est Humphrey Bogart, c'est Edward G. Robinson. C'est James Cagney. Et dans ce film, L'ennemi public, James Cagney se caractérise par une hystérie, une extrême violence qui allait disparaître avec le code Hays. Il meurt à la fin. Il y a un carton qui veut être moral en disant « La fin de Tom Powers est celle de tous les truands. L'ennemi public n'est ni un homme ni un personnage. C'est un problème que la société doit résoudre. » Et donc le film veut montrer un aspect moral. Scène culte aussi. On a James Cagney qui écrase un pamplemousse sur le visage de sa maîtresse jouée par Mary Clark. Le film d'horreur, bah oui, le film d'horreur, c'est la fin systématique. Au départ, il y a un clin d'œil au public, mais lorsqu'il y a des suites, chaque fois, on montre que le personnage va s'échapper. Alors, parfois, il renaît, parfois, il laisse un enfant, un frère, qui poursuit la vengeance. Série des Aliens, Halloween, Freddy, les griffes de la nuit, Vendredi 13, Scream, on pourrait en citer pas mal d'autres. Des génériques contiennent des jeux de mots, des gags, des absurdités camouflées, donc. C'est ce que font les Monty Python dans plusieurs films. Parfois, le générique comporte un élément très court, un clin d'œil rapide au spectateur. Parfois, il y a une phrase, alors, phrase qui m'a toujours dérangé. Aucun animal n'a été blessé ou maltraité pendant le tournage. On met jamais, aucune femme n'a été harcelée ou violée pendant le tournage. Non, non, aucun animal. La remarque sur l'animal me paraît relever d'une sensiblerie extrême. Vous allez peut-être me trouver sans cœur. Cependant, deux précisions. L'ours de Jean-Jacques Annaud en 1988. Ben là, on dit aucun animal n'a été maltraité. Sauf que l'ours, il se nourrit de poissons quand il pêche dans les torrents. Est-ce que les poissons sont des animaux ? Ben oui, ils sont des animaux. Sauf qu'il ne crie pas. Donc, comme il ne crie pas, il ne souffre pas. Donc, ça, c'est pas grave. Donc, on ne va pas s'apitoyer sur les poissons. Hein. Et alors, je cite Bertrand Tavernier parce que là, il s'est vraiment moqué de ce type de carton dans Quai d'Orsay de 2013. Le personnage central, c'est un ministre des Affaires étrangères joué par Thierry Lhermitte qui est inspiré de Dominique de Villepin. Il claque en permanence les portes, il fait voler tous les papiers. À la fin du film, on a la mention suivante. Aucune porte du Quai d'Orsay n'a été blessée ni maltraitée durant le tournage. Alors ça, effectivement, je trouve ça extrêmement amusant pour se moquer de ses remarques sur les animaux. Alors, je vais arriver à un film français à la fin de ce film et même à la fin de la fin. Ce film français, c'est Le Cercle Rouge. On va écouter d'abord la musique.
Thank you.
Le Cercle Rouge, un des très grands films de Jean-Pierre Melville. Jean-Pierre Melville qui avait fait Le Samouraï, en particulier, que j'ai cité. Et là, on a quand même Delon, Montand et Gian Maria Volonté, acteur italien qui jouait dans Pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, et qui va apparaître dans de très très nombreux films italiens, qui s'était engagé d'ailleurs, il s'était engagé à gauche, du côté communiste, et par contre dans ses films, il n'en tenait pas compte réellement, il choisit ses rôles de manière, je dirais, personnelle, en fonction du scénario. Donc la situation du Cercle Rouge, c'est le commissaire qui est joué par Bourvil, qui va poursuivre Delon. Et il faut rappeler que Bourvil était un acteur comique. Vous le connaissez certainement, même les plus jeunes, à cause de La Grande Vadrouille et du Cornio, où il joue en tandem avec De Funès. Et il a chanté ce qu'on pourrait appeler pas mal de chansons un petit peu bêtes, entre guillemets, notamment La Tactique du Gendarme dans Le Roi Pandore. Alors ici, la dernière scène, le commissaire joué par Bourvil vient de tuer Delon et il va marcher dans le jardin où il se trouve, avec un adjoint qui le suit. C'est la dernière scène du film. Le générique se déroule sur ce personnage, Bourvil, qui marche. Et que dit Bourvil, qui est quand même un bout en train ? Il faut savoir qu'il allait mourir quelques mois après. Il était gravement malade, mais il continue à plaisanter. À la fin du plan prévu, il se tourne vers son adjoint et lui dit « Vous savez comment j'ai fait pour arriver là ?» Pour arriver à cette solution, c'est tout simple, j'ai appliqué la tacatacatique du gendarme. Donc nous allons écouter cette chanson classique de Bourvil.
Gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tac-tac-tac-tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tac-tac-tac-tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous. Contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Il y a ceux qui n'ont pas de plaque à leur vélo, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Faut courir après tous les voleurs d'auto, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Les gens disent, oh les gendarmes, quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Je réponds du tac au tac, car pensez, j'ai ma tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tac-tac-tac-tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. La tac-tac-tac-tactique du gendarme, c'est d'être perspicace sous un petit air bonasse. Contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement. Contravention, allez, allez, pas de discussion, allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est d'être constamment à cheval sur le règlement.
Élément intéressant pour ce film, alors là je vais parler pour terminer du début du film. Il y a une citation au début du film qui est la suivante. Quand les hommes, même s'ils s'ignorent, doivent se retrouver un jour, tout peut arriver à chacun d'entre eux et ils peuvent suivre des chemins divergents. Aujourd'hui, inexorablement, ils seront réunis dans un cercle rouge. Alors certains ont cité ça respectueusement, cette citation asiatique, qui prête à notre asiatique, mais en réalité elle est apocryphe, c'est-à-dire que Melville l'a inventée. Donc il s'est moqué un petit peu du spectateur de cinéma en disant « mais voilà, je vous sors une citation ». Conclusion de ces émissions, eh bien j'espère que vous serez conduits à suivre le générique par respect pour l'œuvre. En effet, toute œuvre mérite d'être respectée. Et un film peut être vu dans son intégralité. Vous allez me dire, c'est plus difficile quand on a des DVD ou qu'on peut bloquer en replay, en VOD, etc. Ça fait rien. Allez, faites-moi plaisir, suivez le générique du film jusqu'à la fin. C'était Cinéma Cinéma. Une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Sacha Gauchy. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de tous les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à tous et à toutes.